La semaine dernière, nous avions vu une porte qui était importante, qui était la porte des chevaux. Et je crois que le Seigneur nous a parlé en nous faisant comprendre que nous avions besoin d'entendre que le Seigneur est puissant. On vient de le chanter. Il est tout puissant et qu'il nous avertit qu'il y a des combats dans la vie chrétienne. Mais nous avons vu qu'il faut accepter ces combats et qu'au contraire, c'est en combattant qu'on remporte la victoire. Et le Seigneur est avec nous. Alléluia. Et il nous fortifie, il nous équipe. Et je voudrais lire maintenant avec vous un premier verset qui se trouve donc toujours dans Néhémie au chapitre 3. Un seul verset. Il nous est dit au verset 26. Les Néthiniens demeurant sur la colline travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux à l'Orient et de la porte de la tour en saillie. Amen. Donc il nous est fait mention là d'une porte qui s'appelle la porte des eaux, et nous allons maintenant au chapitre 8 de ce même livre d'Ésaïe, et nous lisons, de Néhémie, et nous lisons ceci. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Je vous assure que c'était pas fait exprès. Mais c'est quand même unique. Hein, voilà. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maaseja. Et à sa gauche, Pedaja, Michaël, Malkija, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Je ne pense pas que les noms hébreux étaient destinés à nous faire rire. Mais c'est vrai que... Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Sérébia, Jamin, Akub, voilà plusieurs, et les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Et ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous continuons l'inspection des murailles de Jérusalem et nous faisons le tour de cette cité et en comprenant que l'édification, le relèvement de ces murailles correspond également au relèvement de notre vie quand le Seigneur agit dans notre cœur. Connaissez bien ce texte dans 2 Corinthiens 5 au chapitre 5 et verset 17 qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Dans la parole de vie, il est dit ceci, c'est une traduction qui dit ceci, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Il est créé à nouveau. Et nous voyons que les murailles de Jérusalem, cette ville tout entière, avaient été abattues, avaient été ruinées, un peu à l'image de ce qu'était notre vie avant de rencontrer le Seigneur. Nous étions en ruine, enfin, en ce qui me concerne, je me souviens, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, il est venu à mon aide, à mon secours, et je l'ai appelé à mon aide, parce que ma vie, littéralement, que ce soit intérieurement, que ce soit extérieurement, j'étais en ruine. Mais Jésus m'a relevé, alléluia! Et lorsque je considère, eh bien, ce qu'il a fait, eh bien, je retrouve ici, eh bien, l'œuvre du Seigneur. Parce que Dieu ne bâtit pas comme cela sans qu'il y ait un plan, sans qu'il y ait quelque chose de déterminé. Et nous avons vu ensemble, si quelqu'un est en Christ, il faut être en Christ. Et l'image, le modèle, c'est Jésus, alléluia. Et nous ne voulons pas, eh bien, le mettre de côté. Je vous avais dit, et nous allons partager ensemble, eh bien, que cette identité en Christ, eh bien, elle est conquérante. Le Seigneur fait de nous des vainqueurs, alléluia. Il ne fait pas de nous des vaincus et nous sommes cette église qui est belle pour le Seigneur, mais qui est capable de résister, de tenir ferme, d'être fidèle dans les temps mauvais. Alléluia. L'histoire d'Israël, eh bien, est en définitive un avertissement pour l'église, parce que malgré une loi excellente et un Dieu d'amour, eh bien, ce peuple, eh bien, a renoncé à servir Dieu, a renoncé à la fidélité, et eh bien, il a été éloigné des promesses que Dieu lui avait faites. Mais dans son grand amour, Dieu l'a ramené, alléluia, dans ce pays promis, pour réitérer son alliance avec lui, alléluia. Alors nous voulons dire, Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui sont des auditeurs oublieux, mais nous comprenons que si tu veux nous relever, si tu veux nous édifier, c'est qu'il y a un but bien précis, alléluia. Et je voudrais dire peut-être à quelqu'un, laisse le Seigneur agir dans ta vie. Laisse Christ faire son œuvre dans ta vie. Peut-être que quelqu'un au milieu de nous, eh bien, s'étonne de voir que certains sont fidèles et peut-être plus fidèles que d'autres et voir que malgré les années, leur enthousiasme à l'égard de Christ, leur enthousiasme par rapport au témoignage, eh bien, dans même l'église de Dieu, dans le service, eh bien, pour le Seigneur, ne faiblit pas. Dites, mais moi, je ne suis pas un homme de cette qualité-là. Moi, je ne suis pas un Esdras, je ne suis pas un Jean-Baptiste, je ne suis pas, eh bien, un apôtre Paul. Mais je voudrais te dire ceci, eh bien, Dieu ne te demande pas d'être un apôtre Paul ou un Esdras ou je ne sais qui. Il te demande d'être toi-même. Et toi, à ta place, tu peux dépendre de Dieu. Alléluia. Parce que le secret de la vie de ces hommes, de ces femmes, comme des frères et des sœurs qui peuvent être au milieu de nous, et qui sont fidèles depuis des dizaines et des dizaines d'années, ce n'est pas leur personnalité eux-mêmes, mais c'est qu'ils ont laissé Dieu œuvrer dans leur cœur. Alléluia. Ils sont devenus de nouvelles créatures. Alléluia. Et si on est fait à l'image de Jésus, Jésus est un rocher. Alléluia. Amen. Je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Alléluia. Tu es bien fragile, Pierre. Mais tu vas entrer dans une œuvre. Bâtis sur moi. Tu vas être, eh bien, quelqu'un, eh bien, d'inébranlable. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Alors, dans cette perspective, eh bien, nous étudions la porte des eaux. Et alors, on va dire, mais la porte des eaux, pourquoi un tel nom? Pourquoi un tel nom? Ben, tout d'abord, quand on prend la géographie, parce que c'est une ville qui existe réellement, Jérusalem, voilà, la géographie et l'archéologie sont là pour nous aider, eh bien, elle était à proximité d'une source qui s'appelle Guillon et qui signifie, jaillissement, et c'est un lieu habité également, eh bien, par ce que l'on appelle les Nétiniens, voilà, Nétiniens, ça vient de Nathan, et Nathan, ça veut dire donner. Les Nétiniens, c'était des gens qui avaient été donnés, et bon, on a... Le temps manque pour chercher les références, mais on s'aperçoit que Moïse, Josué, David, Salomon, dans leur conquête, avaient donné des serviteurs, des peuples qui appartenaient au peuple vaincu, aux sacrificateurs et aux lévites. Et dans Josué, au chapitre 9 et au verset 27, ils devaient couper le bois et puiser l'eau pour le culte. Et si vous aviez la carte en tête, en réalité... Eh bien, la porte des eaux, elle est juste au sud du temple. Et ces hommes avaient un accès facile au temple. Et leur service, ces Nétiniens, eh bien, était d'apporter notamment, puisque la source de Guillon était juste à côté, eh bien, était de porter l'eau auprès du temple. C'était des porteurs d'eau. Et nous comprenons que, eh bien, dans le langage commun, courant, eh bien, elle a été appelée la porte des eaux. la porte des porteurs d'eau, la porte des eaux. Et découvrons donc que c'était un lieu de service, que c'était également un lieu d'activité, le transport de l'eau pour les besoins du temple. Et peut-être que quelqu'un se posera la question, mais quelle application pour nous? Nous voyons, et nous l'avons lu dans le chapitre 8, que ce dénommé Esdras, ce sacrificateur, ce scribe, alors ce scribe, qu'est-ce que c'est un scribe? Un scribe, c'est quelqu'un qui étudiait les Écritures, la loi, les prophètes, qui l'a recopié, qui en faisait également un enseignement et même des commentaires, et nous le voyons ici. Esdras, est cet homme qui va parler, qui va mettre la parole de Dieu à l'honneur, qui va être élevé sur cette estrade. Nous allons y revenir dans un instant. Et nous voyons donc que cette porte, en réalité, nous parle de l'activité, de l'action de la parole de Dieu dans notre cœur. Et je voudrais mettre l'accent avec vous dans cette matinée sur le fait que la parole de Dieu est une parole qui est vivante. Qui est vivante. Dans plusieurs textes, et je cherche mes références, par exemple le Proverbe 25, on pourrait le lire, Proverbe 25 et le verset 25. Voilà, si ça apparaissait au tableau là, ça serait bien. Mais voilà. Proverbe 25, verset 25. Il nous est parlé, vous savez, la parole de Dieu fait des comparaisons. Et il nous est dit ceci: comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. C'est-à-dire que il nous est parlé d'une bonne nouvelle, et nous on sait ce que c'est la bonne nouvelle. La parole du Seigneur, celle qui nous révèle Jésus, et elle est comme une eau fraîche, pas une eau stagnante, pas une eau enfermée en bouteille et qui est conservée comme ça, mais une eau vive, une eau fraîche, une eau qui sort d'une source, et elle est, comme cette eau fraîche, nous est-il dit, pour une personne fatiguée, elle rafraîchit, elle relève, elle fortifie. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir ensemble, que nous avons besoin de percevoir la parole de Dieu. Si vous vous souvenez, il y a quelque temps en arrière, nous avions étudié une autre porte qui s'appelait la vieille porte. Et si vous vous souvenez bien, nous avions parlé de cette vieille porte comme étant une porte qui nous parle de cette voie de Dieu qui traverse les temps éternels. Avant que nous existions sur cette terre, Dieu avait un plan d'amour prévu pour nous. Alléluia. Et l'Écriture nous dit, dès avant les temps éternels, il fut décidé que le Fils allait donner sa vie pour nous racheter, pour racheter l'humanité, ce monde créé par Dieu. Dieu avait tout prévu, et nous voulons dire également peut-être à quelqu'un au milieu de nous qui se considère peut-être, entre guillemets, comme une erreur de la nature, comme quelqu'un qui n'a pas voulu. Vous avez traîné cela comme un boulet en vous disant, mais j'ai pas été voulu, mes parents me l'ont assez répété, et j'ai traîné cette parole dans mon cœur, j'en ai été convaincu, et c'est quelque chose de dur à vivre dans mon foyer, dans mon travail, je me sens toujours comme quelqu'un de nul, de perdu. Je voudrais vous dire ceci, chassez cela de votre cœur, cela ne vient pas de Dieu. Parce que dès avant les temps éternels, Dieu pensait à vous. Alléluia. Et si des hommes et des femmes n'ont pas pensé à vous et ont dit c'est une surprise, c'est un malentendu, il n'aurait jamais dû venir, ce ne sont que des hommes et les hommes se trompent. Mais Dieu ne se trompe pas. Alléluia. Il a donné Jésus afin que vous ne périssiez pas mais que vous ayez la vie éternelle. Alléluia. Et ça, c'est le plan d'amour. Mais nous comprenons que cette parole qui existe de toute éternité, elle a besoin, d'être également une parole vivante, fraîche, que nous recevons et maintenant qui est dans notre, pour nous aujourd'hui. Vous savez ce qu'il y a de merveilleux lorsqu'on lit la Bible, c'est que ce livre qui nous parle de choses tellement belles au 20e siècle, 21e siècle, il est toujours actuel. Alléluia. C'est la parole du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Et dans le grec. Pour exprimer le mot parole, il y a deux mots. Alors certains ont été un petit peu loin dans leur définition, mais néanmoins, alors ces deux mots existent. Il y a le mot logos, que vous connaissez bien, la parole, et il y a le mot également rhéma. Et le mot logos définit la parole et la raison. pourquoi la parole existe. Par exemple, lorsqu'il est dit de Jésus qu'il est la parole faite chair, c'est le mot logos, cette parole qui existe de toute éternité. Mais le grec emploie également le mot rhéma pour parler de la parole associée à un événement, à une expérience. C'est la même parole, mais il y a une définition dans cette parole qui est la cause de toute chose, et la parole également qui amène une conséquence, qui amène une expérience. Et c'est sur cela dont je voudrais un temps m'appuyer. Le logos parlerait, si on voudrait un petit peu simplifier les choses, eh bien de la doctrine, de Dieu, de la nature divine, de ce qui ne change pas. Et le rhéma, eh bien, parlerait, eh bien, de ce que, eh bien, tu as besoin de vivre, de cette parole qui te rafraîchit là, maintenant, et qui, eh bien, va être saisie, eh bien, par toi. Et je voudrais vraiment dire, les deux sont indissociables. Je voudrais pas que vous puissiez dire, ah, mais j'attends d'avoir une parole qui me parle, avoir un frisson également. Je voudrais pas que vous soyez dans un état émotionnel instable où vous seriez, eh bien, dans l'attente d'une révélation, qu'une parole de Dieu vous touche, etc. Tout est déjà écrit, alléluia. Mais je suis en train de définir le fait que cette parole, elle est vivante, alléluia, qu'elle nous rafraîchit, amen. Tout est écrit afin que vous puissiez le vivre, mes frères et sœurs, amen. Et notre vœu le plus cher, c'est de pouvoir, eh bien, découvrir encore la grâce et la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, dans la Bible, il y a des porteurs d'eau, il y a des porteurs d'eau. On a vu la porte des eaux, ok, porteur d'eau. Et je voudrais aller, on l'avait fait une fois, cette lecture, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 22. Vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez? Voilà, Luc 22, vous allez voir un porteur d'eau. Un porteur d'eau, au chapitre 22, verset 7. Il nous est dit: le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent: où veux-tu que nous la préparions? Et il répondit: voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, voilà le porteur d'eau, et vous direz au maître de la maison: le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Et ils partirent et ils trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Amen. Gloire au Seigneur, alléluia. Pour les bien-aimés qui viennent, là, il y a de la place ici sur le devant. Donc nous comprenons une chose. Ici, nous voyons le logo, c'est le rhéma qui s'interpénètre l'un l'autre. Pourquoi ? Le logo, c'est là pour parler de la Pâque, de la croix, du sacrifice, du plan éternel de Dieu. C'est également dans la chambre haute où les disciples vont avoir cette intimité avec le Seigneur, où Jésus nous dit: mais le voile est déchiré, vous pouvez entrer dans la présence de mon Père céleste. Et il assure également des promesses les plus extraordinaires, et notamment celle du baptême de l'Esprit. Alléluia, la chambre haute, gloire au Seigneur. Et ça, c'est le plan de Dieu pour tous les hommes. Mais il a fallu, eh bien, que cette parole, d'une certaine manière, devienne personnelle et soit comme un courant d'eau, une eau fraîche, une eau vive, qu'ils perçoivent que c'est pour moi. Vous suivrez, eh bien, ce porteur d'eau, cet homme qui porte de l'eau, et il vous conduira, eh bien, dans ce lieu où vous pourrez vivre les choses qui sont prévues de toute éternité. Alléluia. Et je voudrais dire peut-être à quelqu'un, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut te désaltérer. Alléluia. Laisse-toi toucher par le Saint-Esprit et laisse de côté les mauvais exemples, les mauvaises réflexions, eh bien, qui sont, eh bien, sans cesse dans ton cœur pour t'empêcher, eh bien, de boire, de goûter à ce que Dieu, eh bien, veut te faire découvrir. Alléluia. Tu as besoin de savoir encore et encore que Dieu t'aime. Hier avec les jeunes, nous avons une belle rencontre de jeunesse. Hier à Richter, Dieu nous a fait du bien. Et on a parlé de l'amour de Dieu. Et on découvre que bien des jeunes, ou même des moins jeunes, font toutes sortes d'extravagances pour simplement qu'on les regarde, qu'on prenne attention à eux, désirant simplement, eh bien, être aimé. Mais je voudrais te dire ceci: Dieu t'aime. Alléluia. Il t'aime tel que tu es. Il te fait grâce pour tes péchés. Alléluia. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia. Et il veut remplir ton cœur de cela. Mais il faut que tu goûtes, il faut que tu y boives, il faut que ce soit pour toi comme une eau vive, une eau fraîche. Alléluia. Parce que ton Seigneur, il est vivant, il est ressuscité. Amen. Il n'est pas mort, il est mort, mais bien plus, il est ressuscité d'entre les morts et il te donne, eh bien, à vivre, eh bien, cette vie extraordinaire. Alléluia. Alors, ce qui est intéressant dans ce que nous avons lu et qui concerne, eh bien, nos vies et peut-être avons-nous besoin de faire des progrès, c'est l'exemple de ces porteurs d'eau. Il nous est parlé ici d'un certain Esdras, et cet homme, il apparaît ici, mais il apparaît également ailleurs, dans un autre livre qui s'appelle le livre d'Esdras, et il nous est donné là, en quelques lignes, en quelques mots, son curriculum vitae, sa carte d'identité. Qui était cet Esdras? Alors on va aller ensemble dans le livre d'Esdras. Vous tournez les pages de votre Bible, c'est juste avant Néhémie. Esdras, chapitre 7, et le verset 10. Esdras 7, 10. Vous allez voir un petit peu la qualité de cet homme, qui est pour nous un modèle, qui à mon sens est également un type de Jésus, élevé sur une estrade. Jésus a été souverainement élevé, et il a dit, lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Mais nous voyons un homme qui est à l'image de Jésus. Et voici, vous l'avez, Esdras 7, 10? Oui ou non? Bon, oui, d'accord. Alors voici ce qu'il nous est dit. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Je voudrais que l'Église entière, moi le premier, nous soyons tous semblables à Esdras. C'est un homme avec des qualités spirituelles indéniables. Tout d'abord, un homme qui est attaché à l'Écriture. Il ne va pas chercher sa joie de vivre, son salut, ailleurs que dans la révélation que donne la Bible. Alléluia! Et je voudrais vous dire ceci, tout est écrit. Et Jésus est venu afin de tout accomplir ce qui est écrit. Alléluia! Nous avons tout pleinement Jésus-Christ. Et il nous est dit, vous avez remarqué, trois points concernant Esdras. C'est qu'il appliquait son cœur à étudier, il mettait en pratique cette parole et il l'enseignait également au milieu du peuple d'Israël. C'est fort quand même ça. Vous avez remarqué la progression. Et si je pars du troisième point, il enseignait au milieu d'Israël, mais avant d'enseigner, il vivait ce qu'il enseignait. Et il y a un principe fondamental dans la parole de Dieu. On ne peut pas faire vivre à quelqu'un quelque chose qu'on ne vit pas soi-même. Si tu veux que ta famille rencontre le Seigneur, parce que je voudrais m'adresser à chacun d'entre nous d'une manière très précise, parce que le Seigneur veut que nous soyons des Esdras à la porte des eaux, dans nos familles, dans nos maisons, dans l'Église, pour que nos enfants, pour que nos voisins, nos petits-enfants peut-être, ou nos parents qui ne connaissent pas le Seigneur, trouve auprès de nous, non pas une espèce d'eau stagnante, une eau morte, une espèce de marécage infesté de moustiques, mais qu'il découvre, eh bien, une eau vive, rafraîchissante, alléluia, parce que Jésus est vivant, amen. Et il est fondamental de comprendre qu'on ne peut pas faire découvrir à quelqu'un Jésus-Christ qui est vivant, ressuscité, si nous-mêmes nous ne vivons pas ce que Jésus veut nous faire vivre, alléluia. Et il nous est dit tout d'abord, eh bien, qu'il appliquait son cœur à étudier. On sent une vie intérieure, on sent une vie cachée, on sent une vie de prière, on sent quelqu'un qui est en recherche, mais ce n'est pas simplement une vie intérieure, parce qu'il a compris, cet homme-là, que eh bien, ça sert pas la vie chrétienne, la vie avec Dieu, ce n'est pas simplement une source de connaissances qui nous remplit de joie, ou une source d'extase ou de joie, comme nous pouvons vivre eh bien, dans cette matinée, ou dans nos cultes, le Seigneur nous visite d'une manière formidable, on est dans l'émotion et Jésus nous touche. Mais il comprend également qu'il devait mettre en pratique vie intérieure, mais vie extérieure, alléluia. Et ce qui est extraordinaire dans la vie de cet homme, c'est que l'intérieur correspondait à l'extérieur. Petite remarque, il ne peut pas y avoir d'extérieur s'il n'y a pas d'intérieur d'abord. Il faut, avant de manifester les fruits, il faut avoir des racines. Et ces racines, elles sont cachées. Et la vie de cet Esdras, eh bien, c'est cela. Et peut-être que quelqu'un a-t-il besoin de revenir aux fondamentaux. Tu veux que ta famille soit sauvée? Tu veux eh bien, que les uns et les autres rencontrent le Seigneur? Et je me souviens qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. La foi personnelle pour ce geôlier de Philippe était première, et ce qui est venu ensuite, c'est le salut de sa famille. Si cet homme n'avait pas cru lui, s'il n'avait pas porté des fruits, jamais sa famille ne se serait tournée vers le Seigneur. Et nous comprenons que il y a une logique et des principes spirituels, eh bien, qui sont là. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Et mes frères, mes sœurs, ne dites pas oui, mais ça concerne Esdras. C'était un prédicateur, c'était un scribe, c'était voilà, c'est bon pour les pasteurs, ça, Esdras. Non. Mes frères et sœurs, l'Écriture nous dit, et je voudrais vous l'affirmer de tout mon cœur, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, vous êtes manifestement, vous êtes manifestement, vous savez, les Français, ils manifestent. Vous savez que les Français, ils manifestent pas. Hein. Voilà, je manifeste. Voilà. C'est ils extériorisent. Vous êtes manifestement quoi ? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, une lettre de Christ. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie que votre vie, ce que vous êtes, c'est le plan de Dieu, est destiné à être lu. Alléluia ! Et mes frères et sœurs, nous le comprenons de tout notre cœur, alléluia ! Eh bien, il y a là un plan de Dieu. Cet Esdras va être placé sur une estrade de bois pour lire, expliquer la parole. C'est un vrai porteur d'eau. C'est pas lui qui s'élève en réalité, mais c'est la parole de Dieu, eh bien, qui élève. J'ai bien aimé ce que notre frère a partagé tout à l'heure. On n'est pas dans une compétition entre nous dans l'Église. On n'est pas à se juger à la performance en train de dire toi, tu es plus fort que lui, et lui est plus fort qu'un tel. Ça, dans le peuple de Dieu, ça ne doit pas exister, mes frères et sœurs. Alléluia. Et cet homme, en réalité, il n'est pas élevé sur une estrade pour dominer sur les autres. Mais en réalité, il est élevé sur une estrade, eh bien parce que il apporte cette parole. En réalité, il se laisse lui-même diminuer, dominer par la parole de Dieu, afin de servir les autres. Alléluia. Et mes frères et sœurs, que notre intention soit celle-ci, pure devant Dieu, alléluia. Seigneur, je suis ton enfant, tu m'as sauvé, je veux te servir, mais je veux être à l'image de Jésus qui a été élevé sur une croix, non pas eh bien, pour se servir lui-même, mais pour nous servir à nous, alléluia. Alléluia. Il y a une part de sacrifice, il y a une part eh bien, indéniable eh bien, de cette vie qui est offerte entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et je voudrais vous dire ceci, mes frères et sœurs. C'est cette parole qui va faire l'unité. Vous avez peut-être remarqué, dans Néhémie chapitre 8, verset 1er, il nous est dit « Tout le peuple s'assembla comme un seul homme et ils dirent à Esdras d'apporter le livre de la loi. » En réalité, ce n'est pas Esdras qui a sonné la cloche pour dire « Hey, venez, écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. » Non, c'est le peuple qui rassemblait à la porte des eaux comme un seul homme. Et on a besoin d'entendre la parole de Dieu. Et celui qui va nous apporter la parole de Dieu, c'est celui qui la vit, ça va être Esdras. Et je voudrais vous dire que vous et moi, parce que moi je ne veux pas me mettre sur une estrade, sur l'estrade c'est Jésus, alléluia. Et celui qui fait l'unité, l'unanimité au milieu de nous, c'est lui seul, alléluia. La parole faite chair, alléluia. Et on lui dit, Seigneur, parle-nous, enseigne-nous, alléluia. J'ai besoin. Vous n'avez pas besoin que le Seigneur vous visite journellement. Moi, je sais que j'ai besoin. Je dois faire attention. Je vais vous donner un petit secret personnel de santé. L'eau, c'est mon médicament. Je dois boire. Je dois beaucoup boire. Si je ne bois pas, je peux avoir des complications. Mais spirituellement, c'est la même chose. C'est la même chose. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin de passer du temps, j'ai besoin eh bien, de me retrouver dans ta présence, alléluia. Et toi aussi, tu as besoin eh bien, de chercher, et mon frère, ma sœur, l'Église de Christ, c'est celle qui cherche eh bien, la source d'eau vive auprès de ce Seigneur merveilleux. Alléluia, amen, que le nom du Seigneur soit béni. Je me souviens de cette femme, c'est difficile de ne pas en parler, de cette Samaritaine, à qui le Seigneur va parler. Vous vous souvenez, lorsqu'il est au bord du puits, et je reprends rapidement ce texte dans Jean chapitre 4 au verset 38, voilà, est-ce que c'est cela, verset 28, pardon, il nous est dit, non, décidément c'est 13, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alléluia. Elle était une porteuse d'eau. parce qu'elle est allée auprès et bien de son peuple, les Samaritains, pour leur dire, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et on sent qu'elle est changée. Pourtant, sa vie, c'est un échec personnel, sentimental, mariage raté à 5 reprises, et elle vit en concubinage, elle n'est même pas mariée, situation de péché. Le Seigneur lui a tout dit, lui a tout révélé, mais sans jamais l'humilier ou la briser, et il lui parle d'être une adoratrice. Que ce que Dieu veut en fait, c'est que toi, la Samaritaine, tu lui apportes ta reconnaissance, que tu lui apportes ton amour, ton adoration. Mais pourquoi ça? Parce que le Christ est venu pour te laver de tes péchés. Alléluia. Mais cette femme, elle est subjuguée. Elle découvre, mais alors une histoire d'amour extraordinaire, alléluia, entre Dieu et elle. Dieu l'aime, qu'il a donné son fils. Et elle va être une porteuse d'eau exceptionnelle. Elle ne va pas attirer les gens à elle, la foule à elle. Elle va les amener à Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Et je prie de tout mon cœur, afin que nous soyons de ces hommes, de ces femmes, qui ont dans leur cœur, dans leur vie, la porte des eaux ouverte, qui sont des porteurs d'eau, parce que cette eau-là, le monde en a besoin. Ceux et celles qui sont à tes côtés en ont besoin. Tu en as besoin, j'en ai besoin. Et vous avez remarqué, ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'action de la parole de Dieu, c'est qu'elle est compréhensible. Vous avez remarqué ce qui se passe dans ce texte des Écritures. Il nous est dit eh bien, que Néhémie expliquait la loi, et le peuple restait à sa place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre eh bien, ce qu'ils avaient lu. Et c'est, je voudrais vraiment peut-être m'attarder auprès de quelqu'un. Et parfois je suis surpris lorsque je visite, je parle à des frères et des sœurs. Est-ce que vous lisez la Bible? Et parfois je suis surpris du peu de fréquence que nous avons à lire la parole du Seigneur. Je suis surpris parfois que le peuple de Dieu, je me mets dans un ensemble. Personnellement, j'aime lire la Bible tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne la lis pas. Mais je me mets avec vous. Je suis surpris que le peuple de Dieu, l'Église, eh bien, ne fasse pas plus de cas de la Bible et de la parole de Dieu dans sa vie. Il y a quelque temps en arrière, une dame est venue ici. Elle était touchée, elle était frappée par la prédication, par ce qui se passait ici. Alors, elle a rejoint une autre assemblée qui était un peu plus proche d'elle, de sa maison, mais son passage ici l'a fortifiée. Et elle m'a dit, mais je viens d'une église où la Bible, on ne la lit pas. Dit, c'est bizarre ça. Alors, on écoute le pasteur, on écoute ceci, on a des enseignements, on a des formations, il faut payer, etc. Mais on ne lit pas la Bible. On nous parle beaucoup d'argent, etc. Mais on ne lit pas la Bible. Alors, je lui dis, mais il faut lire la parole de Dieu. Et comme c'était une dame qui était issue d'un milieu catholique assez fervent, et qu'elle avait reçu des principes, malgré tout, malgré le fait de son désir de comprendre, et elle avait compris que Jésus est vivant, elle a fait vraiment une expérience merveilleuse avec le Seigneur. Jésus est devenu son sauveur. Et après, la Bible, elle n'était plus là. Et elle vivait quand même sous des jougs. Voilà, les œuvres, etc. Bon, bref, dans la culpabilité permanente, j'en fais pas assez, etc. Et puis, elle lit la Bible, elle m'a dit, mais je comprends. Épître aux Galates, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ, ça c'est Éphésiens chapitre 2, verset 8, mais etc. Et elle m'a dit, mais c'est merveilleux. J'ai dit, mais bien sûr, il suffit de la lire. Et peut-être que quelqu'un au milieu de nous se pose plein de questions dans son cœur, dans sa vie, mais écoute, fais une chose très simple, ouvre ta Bible et lis-la, alléluia, et tu verras, c'est clair, Dieu parle, alléluia. Et il nous est dit qu'ils ont expliqué, alors ils étaient en place, et ils ont été surpris, je pense, de comprendre ce qu'on leur disait. Ce n'est pas mystérieux la parole du Seigneur. Ils nous ont dit, ils lisaient distinctement. Ce n'était pas confus. Ce n'était pas tarabiscoté. Mais c'était clair, alléluia. Et puis, nous ont dit qu'il y avait là un sens parce que ils comprenaient ce qu'ils avaient lu. Donc, il y avait un sens. Et je me suis posé cette question. Eh bien, Seigneur, qu'est-ce que c'est qu'ils ont lu? Ça ne vous intéresse pas, vous? Parce que ça les a mis dans un état. Ils se sont mis à pleurer, à louer le Seigneur. Après, on leur dit, ah non, restez pas dans cette émotion-là. Il faut vraiment que vous vous réjouissiez. Mais qu'est-ce qu'ils ont lu? Alors, je pense que comme ils lisaient la loi, ils ont lu notamment le livre du Deutéronome, qui est la répétition et l'explication de la loi. Et je voudrais lire avec vous un passage. Vous êtes d'accord? On ne va pas lire tout le livre du Deutéronome, mais on va lire un passage du livre du Deutéronome. Et on va aller au chapitre 7e et au verset 12. Chapitre 7 et verset... Et vous allez comprendre avec moi pourquoi ces hommes et ces femmes se sont retrouvés dans cet état-là, en train de pleurer, d'être touchés par la parole de Dieu et de comprendre. Voici ce qu'il nous est dit. Chapitre 7 et le verset... je vous ai dit quoi? Le verset 12. Si vous écoutez ces ordonnances, les ordonnances du Seigneur, si vous observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton moût, ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer, et tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce sera un piège pour toi. Peut-être diras-tu en ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. Amen. Alléluia. Et ces hommes sont en train de découvrir qu'ils ressemblent beaucoup au peuple d'Israël de cette époque-là. Parce que le peuple sortait d'Égypte, mais eux, ils sortent de Babylone. Et entre ce qui s'est passé en Égypte et ce qui s'est passé à Babylone, il y a eu la grande désobéissance du peuple de Dieu. Et en quelque part, c'est un peuple rétrograde qui revient. Des gens qui avaient connu la grâce de Dieu, l'amour du Seigneur, la fidélité de Dieu, et qui se sont détournés du Seigneur, comme dira le prophète Jérémie, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ils ont commis un double péché parce qu'ils m'ont abandonné, moi, dit l'Éternel, qui suis une source d'eau vive. Et, frères et sœurs, je crois que dans leur cœur, ils ont réalisé, malgré nos péchés, les péchés de nos pères, voici que Dieu réitère avec nous son alliance et son amour. Alléluia. Il nous fait entendre encore sa voix. C'est comme si on recommençait tout à zéro. C'est comme si on entrait tout à nouveau dans le pays des promesses. Alléluia. Et je comprends que ces hommes et ces femmes se sont mis à pleurer devant Dieu. En réalité, ils se sont mis à pleurer devant l'amour de Dieu, la grâce de Dieu manifestée à leur égard. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas cité là, mais il est déjà là. Alléluia, la grâce de Dieu, l'amour du Seigneur. Et je voudrais te dire, eh bien, que le Seigneur veut te ramener, eh bien, avec des cordages d'amour, comme dira Osée au chapitre 11 et au verset 4. Et les hommes de Dieu vont venir auprès, eh bien, du peuple et vont l'inviter, non pas à rester dans les pleurs, non pas à rester dans l'angoisse, non pas à rester dans la tristesse, mais entrer dans une joie merveilleuse. Alléluia, parce que le message de l'Évangile, il est merveilleux. Et dans Romains au chapitre 5 et au verset 8, j'avais un signé qui me le donnait, et je le retrouve plus. Et voilà, il nous a dit ceci. Eh bien, je voudrais... Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Et peut-être que quelqu'un a besoin encore d'entendre cette parole. Dieu veut que tu entres. Il veut que tu dises, mais tout son plan, cette Jérusalem qui est rebâtie, c'est pour que cette vie qui est reconstruite, c'est pour que tu entres dans tout ce que Dieu a préparé dès avant les temps éternels, pour que tu y goûtes maintenant. Alléluia. Amen. Et que tu y rentres, eh bien, de tout ton cœur. Et c'est pour cela qu'il est dit, eh bien, ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur sera votre force. Alléluia. Je le mets au même niveau que dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 37, où il nous est dit, eh bien, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et vous connaissez tous ces textes, où il nous est dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. Son approbation, alléluia. Il t'aime, alléluia. Il veut ton bonheur, amen. Et tout à l'heure, eh bien, nous l'avons chanté, il y a un chant qui nous parlait, eh bien, de cela également, eh bien, de cet amour du Seigneur où Dieu, eh bien, veut te faire entrer, eh bien, dans cette grâce merveilleuse. Alléluia. Alors, nous voulons comprendre une chose, c'est que lorsque cette eau vive, cette eau qui est rafraîchissante, nous révèle et nous rétablit dans cet amour, dans cette position que nous avons, eh bien, avec le Seigneur, il se passe quelque chose de formidable lorsqu'on en est convaincu. Lorsque je préparais ce message, il y a un mot qui m'est venu. Alors, parce que des fois, j'aime bien faire mes plans et utiliser des répétitions. Et on a parlé de la porte des eaux, on a parlé des porteurs d'eau, on a parlé de cette eau vivifiante qui fait vivre. Et je terminerai en parlant d'une eau forte. Vous savez ce que c'est l'eau forte ? Est-ce que vous connaissez la technique de l'eau forte ? C'est artistique, ça. Technique de l'eau forte, vous prenez une plaque de métal et vous passez un certain produit pour la rendre imperméable. Et puis avec une pointe, sur cette plaque de métal, vous dessinez un dessin. Voilà, vous dessinez un dessin qui va enlever cette couche imperméable. Et sur ce dessin que vous avez fait, donc le métal apparaît, l'eau forte, ce qu'on appelait l'eau forte autrefois, c'était de l'acide nitrique, il me semble. Et donc vous passez cet acide, et en fait, en rongeant le métal, eh bien ça faisait un dessin poli, enfin, c'était pas, voilà, c'était particulier, vous voyez, particulier. Et ensuite, bon, on lavait tout ça, on enlevait le revêtement imperméable, et par exemple, Rembrandt a fait des eaux fortes. Il y a des artistes qui ont utilisé cette technique, qui font des... C'est vraiment remarquable. Voilà, c'est vraiment remarquable. Et en parlant de cela, enfin en réfléchissant là-dessus, je me suis dit, mais Seigneur, ta parole, elle agit comme une eau forte. Quand on a compris ton amour, quand c'est actualisé, quand c'est pas simplement une parole, oui, on m'en a parlé, etc. Mais quand ça devient cette eau vive, mais c'est aussi une eau forte, ça grave notre cœur. Ça s'imprègne dans notre cœur. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que ça se vérifie dans l'histoire d'Israël. Vous savez, ce qu'on est en train de lire, c'est le dernier réveil spirituel de la Bible. Après quoi, il n'est plus rien dit, jusque à l'évangile selon Matthieu, Marc et Luc. Il y a un silence ensuite qui vient. Et quand même, il se passe quelque chose. Alors bien sûr, quand Jésus vient, il y a l'hypocrisie religieuse, il y a des pharisiens, des ceci, des cela, bon, vous connaissez, etc. Mais quand même, le peuple de Dieu, Israël, est toujours fidèle à l'Éternel. Et même si la majorité ne va pas croire, et notamment les chefs religieux, le Sanhédrin, etc., et ce qu'ils sont, ils ont fait de leur religion, c'est devenu leur Dieu. Dieu n'est plus leur sauveur, c'est leur religion à eux. Eh bien, on s'aperçoit que néanmoins, cette nation d'Israël, elle reste fidèle à l'Éternel. Pourquoi ? Parce que il s'est passé ça. Il ne va plus y avoir de péché, d'adorer d'autres idoles, etc. Au contraire, on va rebâtir le temple. Il va être de nouveau détruit. On va le rebâtir encore, Hérode. Il va y avoir des hommes qui vont se battre, eh bien, pour rester fidèles, être la nation de l'Éternel. Alléluia! Et jusqu'au retour, eh bien, à la venue, eh bien, du Messie, jusqu'à ce que Jean-Baptiste l'annonce lui-même. Et ça m'a parlé. Dis, Seigneur, on n'a pas besoin d'une voix qui crie derrière nous, d'un bâton qui nous frappe pour rester fidèles. On a juste besoin que cette eau vive, cette parole qui nous dit « Je t'aime d'un amour éternel », elle pénètre notre cœur. Alléluia. Et peut-être quelqu'un a-t-il besoin de l'entendre, cette voix. Alléluia. Tu cherches le modèle auprès d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel. En fait, le modèle, il faut qu'il vienne d'en haut. Alléluia. Et que tu laisses la parole de Dieu t'imprégner. Amen. Alléluia. Changez ton cœur. Et lorsque c'est fait, c'est gagné. Vents et marées, tempêtes, brouillard, mauvais temps, ou jour soleil et petits papillons, voilà. Merci Seigneur, mais tu restes toujours fidèle. Alléluia. Pourquoi ? Parce que tu sais que tu es aimé d'un amour éternel. Amen. Alléluia. Alors, je voudrais qu'on termine et qu'on dise, Seigneur, bien, puisque tu m'aimes, bien, je veux venir à toi. Alléluia. Et je vais vivre encore quelque chose de nouveau avec toi. Amen. Et dire, mais Seigneur, je ne vais pas fermer mon cœur. Je ne vais pas me verrouiller sur moi-même, mais au contraire, Seigneur, je veux que tu touches ma vie. Alléluia. Amen. Vous voulez bien qu'on prie le Seigneur quelques instants ? Seigneur, nous te rendons grâce. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu parles à nos cœurs. Et je te prie, Seigneur, afin qu'il y ait une œuvre de Dieu, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies. Peut-être quelqu'un au milieu de nous qui est dans la souffrance, qui est, Seigneur, dans le questionnement, Seigneur, quant à son état, et qui se pose la question, mais j'y arriverai pas, je me sens trop fragile, trop faible, peut-être même le mot trop nul vient dans son cœur, mais que cela soit chassé dans le nom de Jésus, et qu'une eau vive, une eau fraîche, vienne, Seigneur mon Dieu, le rassasier comme cette eau qui a rassasié le cœur de cette Samaritaine, elle qui était en plein échec. Elle a découvert l'amour de Dieu et plus rien n'a pu l'en détourner. Alléluia. Alors je te prie, Seigneur, afin que dans nos villes en soit de même. Et Seigneur, que nous entendions, Seigneur, encore cette voix. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et Seigneur, nous serons forts chaque jour de notre vie. Nous marcherons vainqueurs. Alléluia. Parce que, Seigneur, nous goûtons à tes bontés. Alléluia. Nous buvons, Seigneur, à la source. À toi la gloire, Seigneur. Je te prie pour celui, pour celle qui... particulièrement, Seigneur, je ne veux pas faire de misérabilisme, Seigneur, mais, mon Dieu, il y a parfois des situations difficiles où un mot peut tout changer. Seigneur, je me souviens de cet homme de la Bible qui dira, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et Seigneur, tu lui as dit ce mot, il l'a entendu, il l'a compris. Seigneur, mon Dieu, alors je te prie afin que ce mot, Seigneur, soit entendu. Je suis avec toi, alléluia. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Seigneur, qu'il y ait cette conviction qui vienne d'en haut, qui vienne du Saint-Esprit. C'est la porte des eaux dans notre cœur. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Quelques secondes là, il nous reste quelques minutes sous le regard du Seigneur. Quelques secondes. Alléluia. Ou dites, Seigneur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Je te demande pardon d'avoir douté de toi. Seigneur, je te demande pardon de m'être endurci. Alors que, Seigneur, tu veux, comme tout à nouveau, me faire entrer dans tes promesses. Alléluia, je veux me laisser aimer et que ta parole soit comme une eau forte dans ma vie qui va s'imprégner et rien ne pourra effacer le message que tu mets dans mon cœur. Alléluia, je suis ton enfant, tu es mon sauveur. Alléluia. Quelques secondes là, je vous laisse quelques secondes, ça c'est dans votre cœur. Alléluia. Seigneur, tu vois celles et ceux qui se sont positionnés face à toi. Et Seigneur, je te demande de les bénir. Et que à partir de ce jour, pour plusieurs, peut-être pour quelqu'un en particulier, il n'y ait plus, Seigneur, de tergiversation, plus de langueur, chasse la peine, la tristesse, mais que ce soit comme un nouveau départ avec toi. Et Seigneur, que cette parole, la joie du Seigneur et ma force, soit gravée dans son cœur. Parce que tu es avec nous, tu nous aimes. À toi toute la gloire, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.